Les hiérarchies spirituelles et leur reflet dans le monde physique. Cinquième conférence, au soir du 14 avril 1909. Nous avons pu suivre l'action de hautes entités spirituelles au sein de notre univers à travers deux exemples. L'ancien Saturne et le globe qui en est la réincarnation, l'ancien Soleil. Il va maintenant être nécessaire pour nous de pénétrer dans la sphère même de ces entités supérieures et d'étudier d'un autre point de vue la façon dont s'est exercée leur action. Nous reviendrons tout d'abord sur certains points qu'un grand nombre d'entre vous ont déjà entendu traiter. Mais outre que certains de nos auditeurs ne connaissent pas ces préliminaires, il n'est pas inutile de les rappeler dans ce cycle de conférences où nous allons devoir atteindre des régions très élevées de la vie spirituelle. Dans un système cosmique en évolution, nous l'avons dit, des entités spirituelles sont actives de multiples façons. Qu'est donc l'ancien Saturne? Faisons-nous-en une idée bien nette. De prime abord, il n'a évidemment rien à faire avec le Saturne actuel. Il faut vous représenter que dans l'ancien Saturne étaient déjà en germe tous les astres qui font partie aujourd'hui de notre système solaire. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter. Tous ces corps célestes étaient contenus dans l'ancien Saturne. Tous sont sortis de lui. Représentez-vous par conséquent un corps cosmique dont le Soleil serait aujourd'hui le centre et qui s'étendrait dans l'espace jusqu'à englober l'orbite du Saturne actuel. Vous aurez ainsi une idée juste de l'ancien Saturne qui dépassait en étendue tout notre système solaire et dont celui-ci est issu tout entier. On pourrait le comparer approximativement à la nébuleuse primitive de Kant et Laplace, à partir de laquelle, pour beaucoup d'esprits, notre système solaire se serait formé. La comparaison ne serait pourtant pas rigoureusement exacte. Au point de départ du système solaire, on se représente une sorte de masse gazeuse, tandis que, nous l'avons vu, il s'agit d'un corps de chaleur et non pas de gaz. Un corps de chaleur gigantesque, voilà ce qu'était l'ancien Saturne. Nous avons vu dans la dernière conférence que, lorsque cet ancien Saturne s'est transformé en Soleil, l'action des chérubins s'est exercée sur celui-ci à partir de la périphérie. Mais ces chérubins étaient déjà présents dans l'entourage de l'ancien Saturne. Bien qu'ils ne fussent pas encore appelés, pour parler familièrement, à réaliser quelque chose d'important. Il y avait encore d'autres entités dans l'espace entourant l'ancien Saturne, une catégorie d'êtres encore plus sublimes que les chérubins. Ce sont les séraphins. De la même région viennent aussi les trônes. Ils sont d'un degré inférieur aux chérubins et la substance émanée d'eux constituait, nous l'avons vu, la chaleur de l'ancien Saturne. Nous pouvons donc nous représenter cet ancien Saturne comme un globe de chaleur géant, entouré d'une série d'entités spirituelles de nature extraordinairement élevée. Ce sont les trônes, les chérubins et les séraphins de l'ésotérisme chrétien, les entités dianiques de l'enseignement oriental. D'où vient donc ce cercle d'entités supérieures ? Dans le monde, dans l'univers, tout a évolué. Pour nous représenter d'où viennent ces chérubins, ces séraphins et ces trônes, il est bon de considérer d'abord notre système solaire et nous demander ce qu'il deviendra un jour. Évoquons donc son évolution à grands traits. Nous savons qu'il provient de l'ancien Saturne, qu'il s'est transformé pour devenir l'ancien Soleil, puis l'ancienne Lune. À l'époque où l'ancien Soleil est devenu Lune, un phénomène très particulier est intervenu. Cette lune se sépare du Soleil pour la première fois et forme tout d'abord un astre indépendant. Du fait que le Soleil s'est ainsi débarrassé de ses éléments les plus grossiers, il peut se développer, s'élever davantage. Tout le système évolue alors pour devenir notre Terre actuelle. Celle-ci se constitue du fait qu'à nouveau se sépare du Soleil, avec d'autres éléments, la Lune et la Terre, dont les substances sont plus grossières et qui portent des entités de nature plus grossière. Et l'évolution se poursuit. Les êtres qui doivent désormais vivre sur la Terre, après avoir été, pour ainsi dire, expulsés du Soleil, évoluent dans cette situation en s'élevant toujours plus. Ils vont devoir passer par un autre état planétaire, celui de Jupiter. Mais de ce fait, ils mûriront peu à peu jusqu'à pouvoir s'unir de nouveau au Soleil. Puis, lorsque sera atteint l'état de Vénus, tous les êtres qui vivent et agissent aujourd'hui sur notre Terre seront réabsorbés par le Soleil. Et celui-ci aura lui-même atteint un niveau supérieur de développement du fait qu'il aura sauvé, délivré tous les êtres qu'il avait rejetés. Enfin, viendra l'état planétaire de Vulcain, le plus élevé de tous dans l'évolution de notre système. Tels sont en effet les 7 degrés d'évolution de notre système cosmique. Saturne, Soleil, Lune, Terre, Jupiter, Vénus, Vulcain. Sur Vulcain, tous les êtres qui sont issus des tout premiers germes existants sur l'ancien Saturne seront totalement spiritualisés. Ils seront à eux tous non seulement Soleil, mais ils auront dépassé le Soleil. Vulcain est plus que Soleil, et de ce fait, il aura atteint la maturité lui permettant de s'offrir en sacrifice, de se dissoudre. Une nouvelle étape de l'évolution consiste en ceci. Que, dans un système de ce genre, un Soleil naît à partir d'un certain point, est tout d'abord faible, pour ainsi dire, et doit expulser ses planètes afin de pouvoir progresser lui-même. Il se fortifie, reprend en lui ses planètes et devient Vulcain. Puis, tout se dissout de nouveau. Le globe de Vulcain deviendra creux et il se formera quelque chose d'analogue à la ronde des trônes, chérubins et séraphins. Le Soleil se dissipera donc dans l'univers, se sacrifiera, se dispersera lui-même. Il constituera lui-même une ronde d'êtres comparable aux séraphins, chérubins et trônes qui continuera à évoluer vers une nouvelle création dans l'univers. Si les trônes ont pu abandonner de leur substance ce qu'il fallait pour que puisse se former l'ancien Saturne, c'est parce qu'ils s'y sont préparés dans un système cosmique précédent au cours des 7 étapes analogues à celles que parcourt actuellement notre système solaire. Avant d'être un ensemble de trônes, chérubins et séraphins, c'était un système solaire. Cela veut dire que lorsqu'un soleil est assez avancé pour se réunir de nouveau avec ses planètes, il limite un espace, il devient lui-même un zodiaque. Les êtres sublimes dont nous avons appris qu'ils forment le zodiaque sont ce qui est venu jusqu'à nous, restant d'un ancien système solaire. Ce qui a tout d'abord évolué au sein d'un système solaire peut ensuite agir à partir de l'espace cosmique, concevoir et tirer de lui-même un nouveau système solaire. Si les séraphins, les chérubins et les trônes constituent pour nous la hiérarchie la plus haute, c'est parce que leur évolution a parcouru l'ensemble d'un système solaire et qu'ils se sont élevés jusqu'au grand sacrifice cosmique. Ces entités sont ainsi parvenues à proximité immédiate de la plus haute divinité dont il soit possible de parler, de la Trinité. Au sein des séraphins, il y a donc cette sublime divinité, cette divinité triple qu'on retrouve chez presque tous les peuples. Brahma, Shiva, Vishnu, le Père, le Verbe et l'Esprit Saint. De cette divinité suprême proviennent en quelque sorte les plans de tout nouveau système cosmique. Avant que le premier rudiment de Saturne se fût manifesté, le plan en existait dans la divine Trinité. Mais cette dernière a besoin d'êtres qui exécutent ce plan, et ces êtres doivent d'abord s'en rendre capables. Les premières entités qui entourent pour ainsi dire la divinité même, celles qui, selon la belle expression en usage dans le christianisme ésotérique, jouissent directement de la vue de Dieu, ce sont les séraphins, les chérubins et les trônes. Ces entités reçoivent de la Trinité, dont ils émanent, les plans d'un nouveau système cosmique. Je dis cela, vous le comprenez bien, d'une façon plus imagée qu'exacte, car il nous faut décrire avec des mots humains des activités sublimes pour lesquelles, véritablement, nos mots ne sont pas faits. Il n'y a pas de mots qui puissent décrire une activité aussi sublime, par exemple, que celle des séraphins au début de notre système solaire, lorsqu'ils ont reçu de la Trinité les plans grandioses selon lesquels ce système devait évoluer à travers Saturne, le Soleil, la Lune, la Terre, Jupiter, Vénus et Vulcain. Le nom de séraphin a toujours signifié, pour ceux qui comprenaient vraiment le sens qu'il y a dans l'ésotérisme hébraïque, que ces entités ont pour mission de recevoir de la divinité, de la divine Trinité, les idées et les buts sublimes d'un système cosmique. Au niveau hiérarchique, immédiatement inférieur, les chérubins ont pour tâche d'élaborer par leur sagesse ces intentions, ces concepts reçus de la divinité. Ce sont des esprits de la plus haute sagesse qui savent transformer en plans réalisables les informations données par les séraphins. Les trônes, troisième degré hiérarchique en partant d'en haut, ont eu ensuite pour tâche de se mettre à l'ouvrage. Ceci est encore une image. Afin que ce qui a été conçu par la sagesse, les sublimes pensées cosmiques reçues de la divinité par les séraphins, puis élaborées par les chérubins, puissent être transformées en réalité. Positivement, on voit, pour peu qu'on regarde avec les yeux de l'âme, la première étape des plans divins se réaliser par la descente de la substance feu émanant des trônes. Ces entités sont donc celles qui ont eu le pouvoir de transmuer ce qu'avaient pensé les chérubins en une réalité première. Les trônes répandent dans l'espace, prévus en quelque sorte pour un nouveau système cosmique, leur propre substance, celle du feu originel. En nous faisant une image de la chose, nous pourrions dire qu'un ancien système solaire a disparu, s'est éteint. Dans ce système, les séraphins, chérubins et trônes sont parvenus au plus haut degré de maturité. Selon les instructions de la Trinité suprême, ils font choix d'un espace dans le cosmos et se disent « C'est ici que nous allons commencer ». Alors, les séraphins se pénètrent des buts de ce système cosmique. Les chérubins élaborent ces projets et, dans cet espace, en forme de sphère, les trônes répandent le feu originel qu'ils tirent de leur propre essence. Nous saisissons ainsi le commencement de notre système cosmique. D'autres entités encore étaient pourtant déjà présentes lors du système solaire auquel le nôtre a succédé. Mais ces entités ne se sont pas élevées aussi haut que les séraphins, les chérubins et les trônes. Elles en sont à un niveau inférieur au début de notre système et doivent passer elles-mêmes par une certaine évolution avant de pouvoir être créatrices, avant de pouvoir se sacrifier. Ces entités sont celles de la deuxième triade hiérarchique. Nous venons de considérer la première et nous avons déjà donné les noms de cette deuxième d'après Denis l'Aréopagite et les maîtres occidentaux. Ce sont les Kyriotétès, domination ou esprit de la sagesse, les vertus, dynamis ou esprit du mouvement, enfin les puissances ou esprit de la forme, exousiai en grec. Nous avons vu à propos de l'ancien Saturne que la première hiérarchie se trouvait dans son entourage. Où faut-il donc chercher les dominations, les vertus, les puissances ? À l'intérieur de cet ancien Saturne. Alors que les trônes viennent jusqu'à la limite du globe, les dominations, vertus et puissances se trouvent au sein de ce dernier. Ces trois rondes d'entités vivent et agissent dans sa masse même, dans sa substance. Confrontons maintenant cette image avec celle de la nébuleuse originelle selon la théorie dite de Kant-Laplace. Cette dernière relève de la pure fantaisie. Il y aurait eu à l'origine de notre système solaire une masse gazeuse gigantesque. On se représente que cette masse s'est mise à tourner sur elle-même, à tourbillonner, et l'on trouve très naturel que, par suite de ce mouvement de rotation, les planètes extérieures se détachent peu à peu. Ce seraient d'abord des anneaux, puis ceux-ci se seraient condensés, le Soleil restant au centre et les planètes tournant autour de lui. On se représente la chose d'une façon purement mécanique. Et dans les écoles, on fait une charmante expérience pour montrer en petit comment le système solaire se serait formé. Dans un récipient plein d'eau, on fait flotter une grosse goutte d'huile à travers laquelle on fait passer une feuille de carton qui représente l'équateur et qu'on perce d'une aiguille au moyen de laquelle on fait tourner la goutte d'huile. Des gouttelettes s'en détachent et le professeur explique qu'il y a là, en miniature, la formation d'un système solaire. Les jeunes élèves, et aussi les moins jeunes, comprennent aussitôt que la rotation de la nébuleuse a fait se détacher d'elle des Mercure et des Saturne. Nul ne songe à s'étonner d'une pareille naïveté. On oublie une seule chose, l'intervention de celui qui fait tourner l'aiguille. Certes, il est bon de s'oublier soi-même, mais pas dans ce cas précis. La mythologie matérialiste de notre temps est incroyablement naïve, bien plus que ne l'était celle du passé. On ne s'en rendra compte qu'à une époque future. Même en faisant abstraction de l'erreur initiale qui met aux origines un gaz au lieu d'un feu primordial, on ne peut pas imaginer que cette masse gazeuse se soit mise d'elle-même à tourner. Si l'on y réfléchit et qu'on n'est pas abandonné par tous les bons esprits de la logique, on doit supposer que des puissances spirituelles ont imprimé ce mouvement de rotation au corps céleste. On est donc amené à se demander où sont les puissances, les énergies qui ont agi sur ce qui pour nous est de nature calorique, de telle façon qu'il s'y passe quelque chose. Elles agissent à la fois du dehors et du dedans. Les entités périphériques ont acquis leurs facultés dans un système antérieur au nôtre et agissent de l'extérieur. À l'intérieur, agissent celles qui, moins évoluées, travaillent à la différenciation de leur masse primitive, y faisant naître des courants, des formes dans la chaleur. Ce sont des entités de la plus haute intelligence qui régissent tout ce qui entre ainsi dans la manifestation. Quelle est la mission de la deuxième hiérarchie ? Les dominations recueillent d'abord ce que les trônes apportent, pour ainsi dire, de l'univers extérieur, et le répartissent de manière à ce que le globe en formation, l'ancien Saturne, soit en harmonie avec cet univers. Il faut en effet qu'à l'intérieur de Saturne, tout soit organisé de façon à correspondre avec ce qui est au dehors. Ce que les séraphins, les chérubins et les trônes reçoivent de Dieu pour l'apporter à Saturne doit être organisé conformément aux ordres de la divinité afin qu'ainsi ces impulsions deviennent réalité. Les dominations reçoivent donc de ce qui entoure Saturne, ce qui, par l'entremise des plus hautes hiérarchies, descend vers ce globe et doit être adapté à lui. Les vertus ou dynamis modifient à leur tour ce qu'ils reçoivent des dominations, agissant sous la direction de ces entités. Les puissances ou exousiae veillent au contraire à ce que soit conservé, aussi longtemps que c'est nécessaire, ce qui a été ainsi édifié selon les buts de l'univers, à ce que ce ne soit pas immédiatement détruit. Ce sont les conservateurs. Nous le verrons de plus près. Les dominations sont donc les organisateurs de la masse saturnienne. Les vertus réalisent cette organisation. Les puissances ou exousiae conservent ce que les vertus ont édifié. Laissons de côté pour le moment la troisième triade dont nous avons déjà parlé. Les esprits de la personnalité, les esprits du feu et les anges. Avec les connaissances nouvellement acquises, examinons comment s'est fait le passage de l'ancien Saturne à l'ancien Soleil. Les faits essentiels ont été décrits dans la conférence précédente. Quand l'ancien Saturne devient Soleil, le feu primordial passe à l'état de gaz ou d'air, de sorte que cet ancien Soleil est constitué par ce qui subsiste du feu primordial, à quoi s'ajoute, se mêle, ce qui s'est condensé en gaz, en fumée. Deux substances existent donc, le feu originel, et une partie de ce feu qui est devenu gaz, fumée ou air, peu importe comment on l'appelle. Telles sont les conditions sur l'ancien Soleil. Nous verrons qu'elles ne sont pas les mêmes pour notre Soleil actuel. En passant par des états intermédiaires, celui-ci est devenu tout autre chose, bien que certains prétendent qu'à l'intérieur, il n'est constitué actuellement que d'une sorte de gaz. Si vous étudiez un peu les théories auxquelles en arrive notre science matérialiste, vous découvrirez parfois des choses bien étranges. Il existe entre autres un petit livre de vulgarisation qui se vend beaucoup à cause de son prix modique, où il est dit, au sujet de notre Soleil, qu'il ne peut contenir aucun solide, seulement du gaz. Mais, ajoute l'auteur, ce gaz, sous l'effet de la pression, aurait la consistance du miel ou du goudron. Une atmosphère de miel, c'est le pays de Cocagne. Une atmosphère de goudron, pourrait-on s'y mouvoir ? Il y a de ces aberrations dans les théories matérialistes. Il n'est donc pas question ici de notre Soleil actuel, mais de l'ancien Soleil, qui se composait réellement du feu primordial et de ce qu'on peut appeler brouillard de feu ou air flamboyant. Cette expression se trouve dans le Faust de Goethe, qui savait ce qu'il en est, et aussi dans les ouvrages théosophiques. Il faut donc nous représenter l'ancien Soleil comme fait d'un mélange de ces deux substances. Mais cet état ne s'est pas produit de lui-même. Les globes cosmiques ne se condensent pas tout seuls. Il faut que des entités spirituelles provoquent cette densification. Quelles sont donc les entités qui ont provoqué la condensation de la substance lors du passage de l'ancien Saturne au Soleil ? Ce sont les dominations. Ces entités ont comprimé la masse saturnienne, si énorme à l'origine, l'ont réduite, et cela jusqu'à ce qu'elle ait été ramenée aux dimensions d'un globe qui s'étendrait aujourd'hui jusqu'à l'orbite de Jupiter, le Soleil étant pris comme centre. Alors que l'ancien Saturne était un globe énorme, aussi grand que notre système solaire, qui s'étendait jusqu'à l'orbite de Saturne actuelle, l'ancien Soleil n'allait que jusqu'à l'orbite de Jupiter actuelle. Jupiter est à la limite d'expansion de l'ancien Soleil. Il est bon de se représenter les planètes extérieures comme marquant les limites d'expansion des anciens globes célestes. On en arrive ainsi peu à peu à se faire une idée de l'origine des planètes. Elle résulte de l'action des hiérarchies. Allons plus loin. L'étape suivante va consister en une nouvelle condensation. Ce troisième état de notre système cosmique, c'est celui de l'ancienne Lune. Ceux qui ont lu la chronique de l'Akasha savent que cette ancienne Lune est née du fait que la substance gazeuse du Soleil s'est condensée jusqu'à l'état liquide. Sur cette Lune, il n'y a pas encore de terre ferme, mais il y a du feu, de l'air et de l'eau. L'élément liquide a été incorporé. L'élément air s'est condensé jusqu'à l'état liquide. Qui donc a provoqué cette nouvelle condensation? C'est le deuxième groupe de la deuxième hiérarchie, c'est-à-dire les vertus ou dynamis. Ceux-ci ont comprimé la masse gazeuse de l'ancien Soleil en ramenant ses limites à l'orbite actuelle de Mars. Cet astre est comme une borne qui indique aujourd'hui ce qu'étaient les dimensions de l'ancienne Lune. Si vous vous représentez un globe ayant le Soleil comme point central et dont la masse s'étend jusqu'à l'orbite de Mars, vous aurez l'étendue de l'ancienne Lune. Nous en sommes maintenant arrivés au point où il faut nous rappeler que lorsque l'ancienne Lune a succédé à Saturne et au Soleil, il s'est produit quelque chose de tout à fait nouveau. Une partie de la substance dense a été expulsée et deux corps célestes se sont formés. L'un d'eux a emporté les substances et les êtres les plus subtils. Il est devenu un Soleil. L'autre est devenu la Lune, d'autant plus dense. Ce troisième état de notre système planétaire n'est donc resté planète unique, homogène, qu'un certain temps. Cette planète a rejeté de son sein un autre astre qui existe désormais à côté d'elle. Tant que l'ancienne Lune est un corps homogène, elle s'étend jusqu'à Mars. Puis, lorsque son Soleil se sépare d'elle, elle tourne autour de lui en suivant à peu près l'orbite actuelle de Mars, c'est-à-dire à la périphérie de l'espace qu'avait occupé le globe primitif. Comment cette scission s'est-elle produite? Comment, d'un seul corps cosmique, deux corps sont-ils nés? Cela s'est fait sous le gouvernement des vertus, des dynamis. Vous n'ignorez pas que, dans l'univers, il se passe quelque chose d'analogue à ce qui se produit dans le cours ordinaire de la vie humaine. Lorsque des êtres se développent, il y en a qui avancent et d'autres qui restent en arrière. Au lycée, certains élèves doublent la classe alors que d'autres progressent rapidement. Ils ne se développent pas à la même vitesse. Or, il en est de même dans tout le cosmos. Au moment où les vertus commencent à remplir leur mission, à exercer leurs fonctions, il se produit en particulier, pour des raisons que nous apprendrons à connaître, ce que dans l'ésotérisme des mystères, on a toujours appelé le combat dans le ciel. Cet enseignement fait partie intégrante de tous les mystères. Il contient aussi le secret de l'origine du mal. À un certain moment de l'évolution lunaire, les vertus ou dynamis étaient à des niveaux de maturité très différents. Les uns aspiraient à s'élever spirituellement le plus haut possible. D'autres étaient restés en arrière, ou poursuivaient du moins leur développement à l'allure normale. Les uns étaient donc plus avancés que les autres. Ceci eut pour conséquence que ces deux sortes de vertus se séparèrent. Les entités avancées provoquèrent la sortie du globe solaire. Celles qui étaient restées retardées formèrent la Lune tournant autour de celui-ci. Le combat dans le ciel que nous avons brièvement décrit provoque la division de l'ancienne Lune. La planète secondaire, l'ancienne Lune proprement dite, passe alors sous la domination des vertus restées en arrière, et l'ancien Soleil sous celle des vertus les plus évoluées. Il y a dans les premières strophes de la Bhagavad Gita une allusion, un écho symbolique de ce combat dans le ciel. Ce fut en effet une lutte formidable, un énorme champ de bataille. La guerre a duré depuis le moment où les dominations ou Kyriotétès ont travaillé à la formation de l'ancien Soleil, jusqu'à celui où s'est formée l'ancienne Lune, lorsque les Dynamis ont entrepris leur mission. Les dominations ont condensé la masse de l'ancien Soleil jusqu'à l'orbite du Jupiter actuel. Puis, les Dynamis ont condensé tout le système jusqu'à la limite que trace le Mars actuel. C'est dans l'intervalle entre ces deux orbites que se situe le champ de bataille de ce combat dans le ciel. Représentez-vous cet immense champ de bataille. C'est au XIXe siècle seulement qu'on a redécouvert, avec des moyens physiques, la dévastation produite par cette lutte. Il y a entre Mars et Jupiter toute une foule de petits planétoïdes dispersés. Ce sont les débris abandonnés sur le champ de bataille où s'est déroulé le gigantesque combat entre ces deux moments cosmiques. Celui où notre système solaire a été comprimé jusqu'à l'orbite de Jupiter, et celui, plus tardif, où sa limite a correspondu à l'orbite de Mars. Quand nos astronomes dirigent leur télescope vers l'espace céleste et y découvrent toujours de nouveaux planétoïdes, il s'agit des vestiges de la lutte gigantesque qui s'est déroulée entre les vertus les plus avancées et ceux qui l'étaient moins. Ce qui a aussi provoqué l'éclatement de la Lune et sa séparation d'avec son Soleil. Voilà comment les faits extérieurs nous apparaissent comme l'expression, la physionomie extérieure des entités divines, spirituelles.